Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à la mission Planck. Pour en parler, nous recevons Jean-Michel Lamarre. Jean-Michel Lamarre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous travaillez au laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique de l'Observatoire de Paris. Et pour la mission Planck, vous êtes responsable scientifique de l'instrument HFI dont vous êtes venu nous parler. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cet instrument HFI ?
Écoutez, l'instrument HFI est un des deux instruments qui sont mis au foyer d'un télescope qui lui-même est embarqué en satellite. Et ce projet, ce satellite, c'est le satellite Planck. Et HFI, ça signifie instrument haute fréquence, ce sont les initiales anglais de instrument haute fréquence. Et c'est-à-dire haute fréquence, c'est un instrument qui couvre le domaine entre 100 GHz et 1 THz. Ce qui fait des longueurs d'onde comprises entre 300 microns pour la plus haute fréquence et 3 mm pour la plus basse.
Alors comment est né ce projet, l'idée de cet instrument ? Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire ?
Eh bien, écoutez, à l'Institut d'astrophysique spatiale où je travaillais au début des années 90, nous avions envie depuis des années de faire une mesure complète du ciel, un relevé complet du ciel dans le domaine des longueurs d'onde submillimétriques, les fréquences ou les longueurs d'onde dont je viens de vous parler. Et parce que c'est un des derniers domaines dans lesquels des relevés du ciel n'existaient pas. Au début des années 90, le satellite Kobe a amené ces résultats absolument extraordinaires où on détectait les fluctuations, les toutes premières fluctuations, ce qu'on appelle les anisotropies, c'est-à-dire les irrégularités de l'émission du fond diffus cosmologique. À l'époque, je travaillais sur des concepts d'instruments dans ce domaine, en particulier pour le satellite Herschel, qui va être lancé bientôt en même temps que Planck. Et je me suis rendu compte qu'à condition que certains développements en cours débouchent, eh bien, on pouvait avoir une sensibilité 1000 fois meilleure que le satellite Kobe. Et donc, on allait pouvoir faire la science que le satellite Kobe nous promettait, on allait pouvoir la faire avec une précision absolument sans précédent. Voilà. Et dès que j'ai proposé cette idée-là à la petite équipe qui s'occupait de ce domaine de longueur d'onde à l'Institut d'astrophysique spatiale, tout le monde a été absolument enthousiaste et on a accrété autour de nous des théoriciens et voilà, le projet était né.
Alors, un instrument beaucoup plus sensible que ses prédécesseurs, comment c'est possible ça ? C'est quoi les ingrédients de HFI ?
Eh bien, c'est d'abord de passer des détecteurs de type radio utilisés par Kobe à des bolomètres. Et des bolomètres, c'est tout simplement un détecteur thermique. Hein. Vous savez que l'infrarouge a été découvert par Herschel par l'effet du rayonnement sur des thermomètres. Hein. Le rayonnement infrarouge chauffait, même si on ne voyait rien à l'œil nu, eh bien, ce rayonnement chauffait les thermomètres. Eh bien, un bolomètre, c'est ni plus ni moins qu'un élément très petit, ayant très peu de capacité calorifique, absorbant le rayonnement et dont on mesure l'élévation de température. Et c'est certainement l'élément central et la chose qui apparaissait possible à l'époque. On utilisait des bolomètres, on travaillait beaucoup sur les bolomètres à l'IAS à l'époque, et toujours. L'ouverture que nous avions, c'était l'arrivée de bolomètres à des températures extrêmement basses, c'est-à-dire à seulement un dixième de degré Kelvin.
Alors, donc ça, c'est sans précédent, hein, c'est bien ça. Il n'y a pas d'équivalent sur d'autres missions.
Sur d'autres missions spatiales, il n'y a pas de bolomètre refroidi à des températures aussi basses. Mais par contre, il n'y a pas très longtemps, il y a un instrument X qui a été lancé avec des détecteurs refroidis encore un petit peu plus bas, c'est-à-dire à 0,06 degrés Kelvin seulement. Malheureusement, cet instrument a eu des problèmes non pas dans la partie cryogénique, non pas dans cette partie faisant des très basses températures, a eu des problèmes et n'a pas pu amener de résultats.
Alors, donc une température ultra basse, mais à quoi ça sert exactement de baisser la température si bas ?
Écoutez, ça sert à plusieurs choses, mais la première, la plus importante, c'est sans doute que les bolomètres, pour qu'un bolomètre soit sensible, il faut que la plus petite quantité de rayonnement qui arrive dessus soit capable d'élever sa température. En d'autres termes, il faut que sa capacité calorifique soit extrêmement faible. Or, c'est une chose qui est bien connue dans la physique des basses températures, que quand aux très basses températures, plus on baisse la température, plus la capacité calorifique devient toute petite et même tend vers zéro, en fait. Et donc, c'est à la recherche de ces très petites capacités calorifiques pour que le détecteur puisse répondre immédiatement à la moindre sollicitation que cela sert d'abord. Ça sert aussi à autre chose, à créer un environnement dans lequel, je dirais, tout est calme. Vous savez que la température, ça représente l'agitation, l'énergie des particules. Et si on est à très basse température, eh bien, les particules sont calmes, les électrons qui s'agitent et qui créent du bruit, le bruit de Johnson, les électrons se calment aussi et le bruit diminue. Les corps qui sont autour du détecteur ne rayonne pas en température. Vous savez que plus un corps est chaud, plus il rayonne, et à ces températures très basses, le rayonnement devient absolument négligeable. Et tout ça, ça nous permet d'avoir des détecteurs sensibles à 10-17 watts. Alors, un rayonnement de 10-17 watts, je ne sais pas comment dire ça. Ce sont des chiffres qu'on a, on a du mal à mesurer.
Parce que ce qu'on mesure, c'est des différences de température incroyablement basses. On parle de quelques millièmes de degrés de différence. C'est bien ça sur les fluctuations du fond cosmologique.
C'est même moins que ça. Hein. C'est-à-dire que ces 10-17 watts nous permettront de mesurer quelques millionièmes de degrés de différence sur la température et sur la température de ce qu'on observe, du rayonnement fossile.
D'accord. Et cet instrument est constitué de 9 bandes de fréquence. Pour quelles raisons exactement ? Qu'est-ce que font ces différentes bandes ?
Alors, en réalité, on s'est rendu compte immédiatement, en mettant bout à bout les différents éléments que je vous ai donnés, on s'est rendu compte qu'on allait avoir un instrument qui serait limité seulement par les fluctuations quantiques, c'est-à-dire par le bruit de photons du rayonnement qu'on allait observer. Et on s'est posé la question à ce moment-là, mais attention, entre la source du rayonnement cosmologique, hein, qui vous savez est un plasma chaud qui est à 13,7 milliards d'années-lumière de nous, eh bien entre nous et ces 13,7 milliards d'années, eh bien, il y a tout l'univers. Donc ça veut dire qu'il y a des galaxies, il y a notre propre galaxie, il y a tout ce qu'on peut imaginer.
Une pollution lumineuse incroyable, en fait.
Assez curieusement, le fond micro-ondes cosmologique est tellement fort que cette contamination lumineuse n'a pas vraiment gêné les premières mesures, en particulier n'a pas gêné les mesures de Kobe. Si on enlève notre propre galaxie, eh bien, la mesure était tout à fait acceptable et on était limité par les détecteurs. Et non pas par la contamination lumineuse. Ce qui veut dire qu'au domaine de fréquence observée, l'univers est incroyablement transparent. Mais quand on arrivait à la sensibilité qu'on espérait avec l'instrument haute fréquence de Planck, eh bien, ça commençait à devenir gênant. Donc on s'est dit, eh bien, on connaît le spectre d'émission des galaxies, donc on va prendre, qui était là une des sources, ou de notre galaxie, qui était une des sources de contamination essentielle, on va mesurer ces galaxies en prenant différentes bandes de fréquences, Et ensuite, ça nous permettra d'enlever la contamination, d'enlever cette composante aux fréquences où on va observer le fond diffus cosmologique.
Et donc, pour être utilisables ces données dont vous venez de nous parler, il faut faire quelques petits traitements, quelques petites choses avant quand même pour qu'elles soient exploitables par les scientifiques. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour ça ?
Écoutez, il y a tout un... D'abord, on va observer... pour être tranquille, on se met très loin de la Terre, hein, au point de Lagrange L2, 1,5 million de kilomètres, et on observe en mesurant des grands cercles sur le ciel. Et puis, petit à petit, on bouge la position du grand cercle, et en 6 mois, on va être capable d'observer tout le ciel. Et donc, la première chose à faire, c'est d'enlever les effets instrumentaux indésirables, l'effet des particules, des rayons cosmiques, etc. La deuxième chose à faire, c'est de faire une carte à partir de ces grands cercles qu'on a mesurés sur le ciel. Et ça, c'est un processus qui est déjà assez compliqué. Parce que il peut y avoir plein de choses qui ont perturbé la mesure et il faut rétablir une carte. Une fois qu'on a fait la carte, il faut identifier les différentes composantes, par exemple notre galaxie, les galaxies extérieures, les amas de galaxies, ainsi de suite, et faire ce qu'on appelle la séparation des composantes, c'est-à-dire enlever cette composante-là de la mesure pour avoir établi des cartes séparées de chacune de ces composantes. Et je peux vous dire que ces cartes, elles sont attendues par la communauté des astrophysiciens avec vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt.
On commence à travailler déjà sur ces cartes. Est-ce qu'on a préparé en amont ce travail qui a l'air colossal,
enfin, absolument. François Boucher de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est responsable de ce traitement, vous en dira certainement plus long là-dessus. Une fois qu'on a séparé les cartes, et on pense comme ce sont les premières cartes qu'on va faire dans le domaine avec ce type de sensibilité et de résolution angulaire, on pense qu'on va faire des découvertes. Quand on regarde avec un instrument nouveau, quand on ouvre un nouveau domaine, on va trouver des objets inattendus, on va avoir des surprises.
Quelques exemples de découvertes que vous espérez ?
Écoutez, l'avantage des découvertes, c'est qu'on ne les connaît pas encore. Donc, moi, personnellement, je suis très intéressé dans les objets, dans les condensations très froides du milieu interstellaire, parce que c'était un de mes centres d'intérêt dans les années 90, avant que je plonge complètement sur le projet Planck. Et je suis sûr qu'on va en mesurer un grand nombre et on va découvrir des choses là-dessus qui sont relativement nouvelles.
Donc beaucoup de résultats en perspective.
Beaucoup de résultats dans l'immédiat et beaucoup de résultats qui vont être donnés à l'ensemble de la communauté astrophysique. Et une fois qu'on aura ces cartes, le cœur, le noyau dur du projet Planck, c'est le fond diffus micro-ondes, le fond micro-ondes cosmologique. Et une fois qu'on aura bien séparé les différentes composantes et qu'on aura une composante dont on dira « Eh bien ça, c'est bien... » le plasma chaud primordial juste après le Big Bang qui a émis cette lumière-là parce que c'est le bon spectre, parce que etc. Eh bien, on commencera dans une phase d'interprétation qui permettra de revisiter complètement tous les paramètres de la cosmologie, c'est-à-dire la géométrie de l'univers, son histoire, sa composition. De chercher là aussi peut-être des choses nouvelles que les instruments n'ont pas été capables de mettre en évidence et on espère apporter des choses à la physique même.
Donc la communauté attend beaucoup de cette mission. Jean-Michel Lamar, merci. Je rappelle donc que vous êtes le responsable scientifique de l'instrument HFI sur la mission Planck. Merci.